Notre Dieu, notre Père, tu es en effet merveilleux. Nul n'est comme toi. Et ce matin, nous venons vers toi pour te demander une parole. Nous avons besoin de cette parole pour vivre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est avec ce désir-là que nous venons vers toi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je lis donc au chapitre 3 du livre de Ruth. Sa belle-mère, Naomi, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Eh bien, Boaz, l'homme dont tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent ? Or, il doit procéder cette nuit au tri de l'orge qui est dans l'aire de battage. Lave-toi et parfume-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'aire de battage et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher au bout du tas de gerbes et Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Il dit « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché les jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre parent, plus proche que moi, qui a ce droit. Passe la nuit ici. Demain, s'il veut exercer envers toi son droit de rachat, c'est bien qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, je le ferai, moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. » Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit « Qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'aire de battage. » Et il ajouta « Donne le manteau qui est sur toi, tiens-le. » Elle le tint et il compta 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint chez sa belle-mère et Naomi dit « « Est-ce toi, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas les mains vides vers ta belle-mère. » Naomi dit, « Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. » Il semble que ce texte répond à 2 problématiques. La première, c'est quelle est la part d'initiative et la part de confiance à avoir dans une situation délicate. Part d'initiative et de confiance. Est-ce qu'il faut attendre ou est-ce qu'il faut agir? Et on se pose ici la question dans les fréquentations, mais on peut imaginer d'autres prises de décision, logement, travail, des moments où on se demande s'il faut attendre ou agir. Une autre problématique, à mon avis, c'est la question de la rédemption. Une fois qu'on est engagé dans une situation et qu'on a de la peine à en sortir, qu'est-ce qui va nous relever? Qu'est-ce qui va nous donner le sentiment que nous pouvons nous en sortir? Qu'est-ce qui va nous libérer d'un poids trop lourd à porter, nous racheter en quelque sorte? Et pour résumer ce passage, je vous suggère la phrase suivante, par la prière, on dit à Dieu nos besoins et ceux des autres, sans pour autant se priver de l'action. Mais au final, l'œuvre de rédemption est la sienne. Par la prière, on dit à Dieu nos besoins et ceux des autres, sans pour autant se priver de l'action. Mais au final, l'œuvre de rédemption est la sienne. Et les deux points, ce seront les suivants. La prière en action et la rédemption en action. D'abord, la prière en action. Dans le livre de Ruth, on ne trouve pas de longues prières comme les psaumes ou autres. Par contre, proportionnellement, il y a beaucoup de paroles de bénédiction, de prières qui sont courtes. Et Dieu est réellement et souvent invoqué dans ce livre. Alors que la providence de Dieu est un des thèmes principaux, on remarque qu'à la fin du chapitre 2, on est rentré dans une certaine routine. Ruth travaille dans le champ de Boaz et tout le monde semble vivre son travail. 6 à 7 semaines, on estime, se sont écoulées. Mais alors que la situation n'a pas changé, la saison se termine, qu'est-ce qui va advenir de Naomi et de Ruth? Quel va être leur avenir? Et Naomi prend l'initiative de dire « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » On sent l'affection dans ces paroles dès le départ. On est loin des clichés entre mère, fille et belle-mère. Là, c'est « Ma fille ». Jusqu'ici, Naomi s'attendait peut-être à ce que Boaz fasse un pas vis-à-vis de Ruth. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il a rien fait. Après tout, on voit par la suite qu'il y a de l'intérêt de sa part. Est-ce qu'il veut être sensible au deuil que Ruth a connu? Est-ce qu'il va attendre un signe de sa part? Difficile à dire, mais dans tous les cas, si Boaz, lui, ne fait pas de pas, Naomi, elle, est décidée à agir pour le bien de sa fille. Et les termes sont intéressants à relever. Elle parle en termes de repos. Elle veut la sécurité, la tranquillité pour sa belle-fille. Et ça, c'est le terme qu'elle utilise dans sa prière au chapitre 1. Elle parle en termes de repos pour ses deux belles-filles. Pour que tu sois heureuse, dit son désir, de la sortir d'une condition difficile sur un plan économique et qu'elle puisse goûter à un certain bonheur. La fin de la saison est arrivée. Boaz devrait être sur l'aire de battage. Et Naomi donne des instructions à Ruth. Il faudra que tu te laves, que tu te parfumes, que tu t'habilles. Alors, mesdames, vous pouvez nous dire combien de temps ça a pris. Hein. Naomi continue avec les instructions. Ruth va descendre à l'aire où Boaz se trouve. Attendre qu'il ait mangé et bu, qu'il se soit endormi. Et ça, pour les hommes, ça dit un peu le centre d'intérêt. Manger et bu. Avant de s'endormir, et c'est là que ça se corse ensuite pour Ruth. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle devra aller lui découvrir les pieds et se coucher près de ses pieds. Elle devra ensuite faire tout ce que Boaz lui demande. Et pour être honnête, on se demande quel est ce plan que Naomi imagine. Après tout, il y avait des prostituées, semble-t-il, qui, à cette époque-là de l'année, au moment des fêtes, se rendaient près des hommes qui avaient travaillé. Est-ce que Naomi veut finalement les mettre dans la romance d'une nuit et imaginer que peut-être il y a quelque chose de plus long qui va naître, un engagement plus fort? C'est pas ça. Pour commencer, c'est pas ce qui va se passer. Et ensuite, de toute évidence, c'est pas l'intention de Naomi. Après tout, elle a parlé en termes de repos, qui dit la sécurité qu'elle veut pour sa belle-fille, sécurité dans la relation engagée d'un homme vis-à-vis d'elle. Pas quelque chose de fragile qui doit se construire sur l'alchimie d'une passion. Maintenant, tout en reconnaissant que ce n'est pas son but, c'est véritablement pas son but, comment est-ce que ça pourrait se passer? Comment est-ce que ça va se passer? Il y a des risques. Est-ce que Boaz va bien réagir? Est-ce qu'il va comprendre que c'est une bonne démarche? Parce qu'il y a clairement des choses qui les distinguent. Il y a une femme qui s'approche d'un homme dans une société patriarcale. Différence de classe sociale, il est riche, elle est pauvre. Différence d'origine, il est d'Israël, elle est de Moab, deux nations rivales. Il y a des risques là qu'il refuse et qui peut-être qu'il la considère comme une femme de mauvaise vie. Et pourtant, à cause de la confiance qu'elle a en Naomi, Ruth est prête à suivre ses instructions. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de ce passage pour nous-mêmes? Pour commencer, il y a une remarque importante à faire, c'est qu'on n'a pas ici une série d'instructions qui doivent nous donner toutes les bonnes étapes pour assurer qu'on va obtenir ce qu'on veut au final. Si je fais ceci, cela, une sorte de recette pour obtenir ce qu'on veut, ce n'est pas cela. On doit tenir compte de nos limites. Dieu seul sait ce qui va aboutir et ce qui n'aboutira pas. Dieu seul le sait. Mais il y a probablement certains principes qui ressortent et qui sont utiles pour nous. Alors qu'on a la prière de Naomi à l'esprit, on voit ici qu'elle devient participante à son exaucement. Ça, c'est le premier élément qu'on peut dire par rapport à la prière. Elle n'annule pas l'action. Naomi prie pour sa fille, mais elle prend aussi une initiative dans l'action. Dans quel état d'esprit est-ce qu'elle avait prié au départ? Si vous vous souvenez du chapitre 1, on se souvient qu'elle avait mentionné un plan qui paraissait pas réaliste. Même si je devais avoir d'autres fils, est-ce que vous attendriez? Autrement dit, vous pourriez épouser d'autres fils que j'aurais, mais non, ça n'a pas de sens. Et c'est dans ce contexte qu'elle prie. Elle reconnaît qu'elle dépend de Dieu, que Dieu seul peut donner à ses belles filles le repos. Elle reconnaît qu'elle n'a pas le contrôle sur la situation. Elle prie, et cette prière en est la démonstration. Elle prie celui qui est en mesure d'intervenir. Mais d'autre part, on relève ensuite que là, après avoir prié, elle n'est pas passive, elle est prête à entamer une démarche. On l'a vu la dernière fois, la providence s'incarne par des personnes, Dieu dans sa souveraineté, dans sa sagesse, choisit des personnes pour démontrer sa bienveillance. Et elle est prête à agir dans ce sens pour sa belle-fille. La prière va de pair avec l'action. Maintenant, il y a ensuite d'autres éléments à relever. On lit les prières du livre et ce qui frappe dans ces courtes prières, c'est qu'il y a avant tout un souci pour l'autre. Ces prières, elles ne sont pas essentiellement centrées sur soi, elles ont l'autre en vue. Naomi demande la bénédiction pour ses filles, Boaz demande une bénédiction pour Ruth. Et on a vu, et on va voir, comment Ruth a agi pour bénir Naomi. C'est frappant dans ce livre de voir que chacun a un souci pour l'autre dans la prière. Autrement dit, l'idée n'est pas de faire du forcing pour que notre dossier passe, qu'on obtienne ce qu'on souhaite avant tout. S'il est légitime de demander à Dieu d'intervenir dans notre vie, il est bon de se souvenir que notre prière devrait être aussi dirigée vers Dieu pour sa gloire, et aussi en pensant aux autres, pour leur bien. Un des livres qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'est le livre, la biographie de George Müller. Il a vécu au temps de Charles Dickens et d'autres, d'origine prussienne. Il a vécu en Angleterre, donc au 19e. Et on peut avoir une petite idée des contextes difficiles qu'il a eus, avec sur le plan du travail, de la santé, de la criminalité, etc. Il y avait pas mal de soucis à cette époque-là. Il était croyant et en novembre 1834, voici ce qu'il écrit dans son journal. « Il me tarde donc de pouvoir présenter aux frères une preuve visible que notre Dieu et Père demeure fidèle, comme il l'a été de tout temps, et que de nos jours, comme dans le passé, il est prêt à prouver qu'il est le Dieu vivant à tous ceux qui se confient en lui. Cette inquiétude qui ronge la plupart des chrétiens, leurs soucis, leur culpabilité en refusant de croire Dieu, ont été les moyens dont le Seigneur s'est servi pour allumer en moi l'ardent désir de donner en ce siècle, à l'Église et au monde, la preuve qu'il est toujours le même. Et cette preuve-là, il me semble que rien ne pourrait la faire aussi bien que la création d'un orphelinat. Puisque ce sera une preuve visible et qui tombera sous le sens. En effet, si un homme pauvre peut fonder un orphelinat et le faire subsister uniquement par la prière et la foi, sans rien demander à personne, Cela fortifiera les faibles, augmentera leur foi et de plus manifestera aux incroyants la réalité des choses divines et éternelles. Telle est la raison primordiale qui ramène constamment ma pensée vers la fondation d'un orphelinat. C'est environ 10 000 enfants qui vont être pris en charge dans ces orphelinats, et alors qu'ils commencent avec 2 shillings, c'est quelque 1 400 000 livres qui vont être récoltés. Et uniquement en faisant connaître à Dieu les besoins, ne disant jamais à d'autres personnes de quoi il avait besoin. Dans un premier temps, on peut se demander s'il y a de l'arrogance dans sa démarche et il veut démontrer quelque chose par prétention. Est-ce qu'il veut prouver quelque chose? Est-ce qu'il essaie de se mettre en avant? Mais l'accent qu'il met sur la prière, n'est-ce pas la démonstration qu'il se sait dépendant de Dieu, que Dieu seul peut intervenir? N'est-ce pas pour que Dieu soit reconnu comme Dieu? N'est-ce pas pour le bien de ces orphelins? On pourrait discuter de la pertinence du principe de ne rien dire sur nos besoins, mais quant à l'articulation entre prière et action, on réalise qu'il démarre ces orphelinats. Il n'attend pas qu'ils tombent du ciel, ces orphelinats. Il démarre, il commence, pas en train de prier vaguement. Et l'exemple peut peut-être nous paraître hors de portée par rapport à ce que nous sommes, ce que nous vivons. Mais il me semble qu'il y a un encouragement à avoir cette audace dans la prière. C'est d'ailleurs le titre qu'Alfred Kuhn a donné au livre, l'audace de la foi. L'audace dans la prière et dans l'action qui vont de pair. Et une certaine audace qu'on retrouve chez Naomi. Peut-être quelques pistes d'application. Quelles sont les personnes autour de moi que je vois dans une situation difficile et pour lesquelles j'aimerais prier aujourd'hui, en ce moment? Prier, c'est reconnaître que je ne peux pas tout faire pour ces personnes-là. C'est justement reconnaître que Dieu est souverain. Mais prier, c'est en même temps préparer mon cœur à agir pour leur bien. Prier pour telle personne qui vit une solitude forte. Et lorsque je prie pour elle, je veux être sensible et agir en sa faveur. Prier pour tel besoin dans l'Église. Et lorsque je prie pour cela, je veux être prêt à agir moi-même. Prier pour que le Seigneur touche le cœur de telle personne qui ne croit pas en lui. Et lorsque je prie, je veux être prêt, au temps voulu, à rendre témoignage de l'Évangile. Maintenant, la prière, il faut le reconnaître, c'est un sujet où on se sent souvent en deçà de ce qu'on voudrait. Et on pourrait se sentir culpabilisé, rien qu'en entendant cela. Est-ce qu'il y a un poids de responsabilité qui finalement retombe sur moi et c'est à moi de prier encore et encore? Est-ce que la rédemption finalement dépend de moi, de mes prières? Et à mon avis, le deuxième point équilibre les choses. Oui, la prière est essentielle, mais il y a encore cette rédemption à voir en action. C'est le deuxième point. Ruth se rend bien à l'ère du battage. Elle observe de loin ce qui se passe. Il y a ce bon repas. Il est dit de Boaz que son cœur était joyeux. Alors, pas une expression qui décrit une ivresse, mais quand même, il a bien mangé, bien bu. Et une fois endormie, elle s'approche de lui, elle découvre ses pieds et l'idée, semble-t-il, c'est qu'il est froid à un moment donné. Il sera amené à communiquer avec elle. Et ça ne manque pas, il frissonne, se retourne et le texte dit la surprise. Une femme à mes pieds. Et avec l'obscurité, il ne sait pas à qui il a affaire. Il pose la question, qui es-tu? Et elle répond, je suis Ruth, ta servante. Et là, il semble qu'on ait, jusque-là, Ruth a suivi les instructions de sa belle-mère. J'ai l'impression là qu'elle prend une initiative, un texte, une parole que Naomi n'a pas précisée. Elle dit « Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Qu'est-ce qu'elle entend par là? Est-ce que ça signifie tout simplement « Mais je meurs de froid ici, étends ton manteau sur moi. » Alors c'est difficile de le voir en français, mais le terme en hébreu peut être traduit de différentes façons. Ici, manteau, mais il pourrait être traduit aussi par aile, Et on se souvient que c'était ce même mot qui était dans la prière de Boaz pour Ruth au chapitre 2. Et c'est un peu comme si finalement elle invitait à accomplir son souhait. Tu souhaites que je trouve un abri sous les ailes du Seigneur? Eh bien, accomplis toi-même ce souhait. Étends le pan de ton manteau sur moi. Une expression qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et qui décrit le mariage. C'est rien d'autre qu'une demande en mariage, finalement, une invitation à ce qu'il fasse cela. Mais là encore, c'est important de relever que si elle fait cette, elle prend cette initiative, c'est pas simplement pour obtenir un mariage, le mariage qu'elle a toujours souhaité. Elle vient vers lui parce qu'il a droit de rachat. Il est rédempteur pour la famille d'Élimélec. On va le voir au chapitre 4, mais cet acte a pour conséquence de sécuriser l'avenir de Naomi. C'est Naomi qui va être au bénéfice de cette sécurité. Le rédempteur, c'était un membre de la famille qui, un frère, un père, un cousin ou autre, un proche du mari, en l'occurrence Élimélec, et devait venir en aide à la famille dans la détresse. Et comment est-ce que Boaz répond à cette demande ? Il a bien compris un témoignage de fidélité envers Naomi. « Sois béni de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. » On voit que cette bienveillance, cette fidélité, cet amour, chacun le témoigne à l'autre. Ruth a témoigné de la fidélité une première fois en s'attachant à Naomi au chapitre 1. Au chapitre 2, Boaz le relève et il témoigne de la bienveillance envers Ruth. Et maintenant, au chapitre 3, Ruth témoigne une deuxième fois de fidélité, de bienveillance vis-à-vis de sa belle-mère. Ce n'est pas simplement un mariage que Ruth a en vue. Elle a en vue le bien de la famille, le bien de sa belle-mère qui va bénéficier de cette rédemption. Le mot « rédempteur » ou « rédemption » revient 7 fois dans ces quelques versets. Et dans rédemption, il y a à la fois l'idée de libération et de rachat. Dans le livre de Ruth, on réalise que le rédempteur espéré doit les sortir d'une situation précaire en payant un certain prix. Il va finalement donner son nom, abandonner son nom pour que le nom de la famille d'Élimélec puisse rester, demeurer. Et si on essaie de décrire la réalité de leur précarité, eh bien, il y a pour Naomi la peine d'être veuve et pauvre, en plus de cela pour Ruth d'être étrangère. Mais c'est plus difficile encore pour elle. Depuis l'alliance au Sinaï avec Moïse, on voit que le mariage, le fait d'avoir des enfants, la prospérité matérielle étaient des signes, des marqueurs d'une bénédiction de Dieu, de l'obéissance à l'alliance. Deutéronome 7,14 résume cette perspective. « Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. » Ces signes extérieurs devaient finalement permettre à la fois aux nations environnantes de voir la bonté du Dieu d'alliance et aider le peuple à se remettre en question lorsque ces signes, ces marqueurs n'étaient pas là. On voit Anne ou la fille de Jephté qui se tournent vers Dieu dans leur détresse. On comprend mieux la peine de Naomi, qui a perdu son mari, ses deux fils, qui n'a plus de descendance. Pas avoir de descendance, c'était perdre le nom et le territoire attribué à chaque famille. Et c'est là que le Rédempteur doit entrer en jeu. Il était possible à un parent de récupérer les territoires, mais aussi de perdre son nom. Ça, c'est le prix à payer. Et comment est-ce que Boaz réagit ? Dans un premier temps, il la rassure en lui disant « Maintenant, ma fille, n'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu diras. » Et alors qu'on pensait que la solution était trouvée, on réalise qu'il y a encore une difficulté. Il lui annonce qu'il y a un autre rédempteur. Et par la suite, Boaz donne à Ruth une énorme quantité d'orge. C'est la deuxième fois que Ruth revient les mains pleines, alors que Naomi disait au chapitre 1 « Et avoir les mains vides ». Et comment est-ce que Naomi réagit une fois qu'elle rentre ? « Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. » Et on attend 3 mois pour voir ce qui va se passer. Mais quel principe en retirer? S'il y a un temps pour l'initiative, il y a aussi un temps pour l'attente et la confiance. Si Naomi, au début de la journée, invite sa belle-fille à aller et prendre cette initiative-là, là, à la fin de la journée, elle lui dit d'attendre, de voir. Elle s'en remet, en tout cas à deux reprises, à Boaz, à son jugement, à son initiative. Et la question qui semble essentielle à poser ici, c'est à quoi correspond la rédemption vers laquelle Dieu veut nous pousser? Quelle est cette rédemption? En pensant à cette période de l'Ancien Testament, avec les éléments que j'ai mentionnés, est-ce qu'on pourrait imaginer une rédemption pareille pour nous? Est-ce que pour nous, il faudrait avoir cette assurance de pouvoir avoir des enfants? De pouvoir avoir un époux, une épouse? De prospérer, d'avoir un certain patrimoine à conserver et à donner à la génération suivante? Est-ce que c'est ça qui nous permettrait d'avoir ce sentiment d'être racheté? Est-ce que c'est vers l'une de ces choses que nous sommes invités à nous tourner? Alors on n'a pas le temps de démontrer que chacune de ces choses a sa propre fragilité et est dans la capacité de nous racheter. Mais sur la base des Écritures elles-mêmes, et en prolongeant ce texte, en regardant son aboutissement, comment faut-il comprendre cette rédemption quand on est dans la précarité ou lorsqu'on a commis une grosse erreur et on a le sentiment de ne pas pouvoir en sortir? Si la descendance, le territoire, une certaine prospérité, c'était ses marqueurs, on voit que dans l'Ancien Testament déjà et dans notre expérience, cette rédemption, on n'arrive pas à la produire par nous-mêmes. On est dans l'incapacité de vivre selon l'Alliance, incapacité aussi à avoir ces signes de prospérité par nous-mêmes. L'Ancien Testament nous pousse à comprendre la nécessité d'une rédemption qui ne vient pas de nous, et qui déjà ici doit venir de quelqu'un d'autre. Elle nous pousse à attendre une plus belle descendance, un plus beau projet. Le temps nous manque pour aller dans le détail, mais écoutez comment l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, décrit l'accomplissement. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Et il n'est pas dit « et aux descendances » au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Et pour les auteurs du Nouveau Testament, dont un certain Pierre qui a renié Jésus à 3 reprises, la rédemption n'est pas notre œuvre. Et on est dans l'incapacité de la payer par des matériaux. 1 Pierre 1, 18 à 21, vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Jésus, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Oui, ce texte nous invite à la prière et à l'action. Prière parce que nous reconnaissons que Dieu seul peut intervenir, mais action parce qu'il choisit des canaux humains pour accomplir sa providence. Il est nécessaire de réfléchir dans cette prière au bien des autres et pas seulement aux nôtres. Mais ce texte nous rend attentifs au fait que les choses ne dépendent pas ultimement de nous. Et nous n'allons pas nous racheter par notre capacité à bien gérer telle ou telle situation. Jésus est le seul véritable rédempteur. Le seul qui puisse nous assurer une pleine et une parfaite sécurité. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire que nous dépendons de toi, que tout vient de toi, et nous t'exprimons notre reconnaissance pour ce que tu nous accordes à chacun. Et dans les situations difficiles ou dans les situations de besoin, de précarité des uns et des autres, nous voulons être sensibles à manifester cette fidélité que toi, tu nous as manifestée. Aide-nous à avoir, en tant qu'Église, ce cœur pour les autres et ce désir de prier pour eux, de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Accorde-nous, Seigneur, en temps voulu, de savoir quelle initiative prendre, tout en reconnaissant nos limites. Et merci, Père, merci de nous avoir accordé cette pleine et cette parfaite sécurité en Jésus. L'assurance de ne pas avoir à nous racheter par nous-mêmes, par ce que nous faisons, par ce que nous avons. Merci de nous avoir rachetés par le sang de ton Fils. Amen.